les ondes de Principe Actif 102.4 et 95.9. Dans le cadre de notre émission de Vous à nous, on vous dit presque tout. Au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons de la langue française. Créée en 1539 par François Ier, ce sera la Troisième République qui mettra en place une instruction primaire obligatoire, laïque et gratuite pour tous. Ce sont les lois de Jules Ferry, ministre de l'instruction publique de 1879 à 1883, qui permettront de démocratiser la langue française et l'imposer sur tout le territoire. Avec toute l'équipe, Lucette, Florence, MC, Michel, Marie-Claude, Paul, Sylvie, Michel, nous aborderons différents sujets quant à son histoire, sa définition, ses racines, ses influences, par le biais de chroniques, sketchs, jeux, etc., dans la joie et la bonne humeur. Notre invitée Sylvie Tombray interviendra tout au long de l'émission et je passe la parole à Michel et Lucette afin de la présenter.
Bonjour Sylvie, vous êtes retraitée de l'éducation nationale et vous avez terminé votre carrière au collège Jean Rostand, c'est-à-dire le collège de Saint-Michel. Quelle discipline enseignez-vous ?
Alors, j'étais professeure de lettres classiques.
C'est-à-dire latin et grec ?
Français, latin et grec.
Mais est-ce que le latin et le grec sont des disciplines obligatoires ou facultatives et à quel niveau ?
Alors, les langues anciennes sont des options facultatives. Le latin se commence en cinquième, quatrième. En troisième, on peut continuer le latin ou choisir le grec. Et donc, le grec ne s'enseigne qu'à partir de la troisième.
Quel intérêt présente l'étude de ces deux langues mortes pour les collégiens ?
Pour les collégiens, comme pour beaucoup d'étudiants, les langues anciennes sont à la base du français. Puisque le latin a subi l'influence, a subi l'influence du grec, et que nous-mêmes avons été colonisés par César et ses petits soldats qui nous ont imposé le latin. C'est à partir du latin que s'est formé l'ancien français. Et donc, aujourd'hui encore, 80% au moins du vocabulaire vient du latin. Peut-être 10% est lié au grec à travers certains métiers de technologie ou artistiques, comme la philo, par exemple.
Et donc, vous êtes retraité, vous avez donc eu une longue carrière. Est-ce que tout au cours de votre carrière, vous avez senti une évolution dans le système éducatif au collège, au niveau de ces matières-là ?
Oui, bien sûr. Au début de ma carrière, les élèves, finalement, ont appris à peu près comme moi j'avais appris quand j'étais petite, c'est-à-dire beaucoup de par cœur, beaucoup de travail, une version par semaine, la semaine d'après un thème. C'était vraiment lourd. Et puis, petit à petit, on s'est plus intéressé à la civilisation et aux arts qu'à l'enseignement proprement dit de la version latine, traduction de textes latins en français.
Maintenant que vous avez du temps libre devant vous, est-ce que vous pratiquez encore une activité en relation avec votre ancien métier ?
Alors, oui. Au début de ma retraite, je m'étais dit plus jamais d'enseignement, plus jamais d'élèves, plus jamais de jeunes qui refusent parfois nos enseignements. Et puis je me suis assez rapidement engagée dans une association que vous connaissez tous et qui s'appelle les Restos du Cœur. Et si au départ je faisais de la cuisine, depuis 2 ans la nécessité m'est apparue d'enseigner le français aux étrangers pour qu'ils puissent s'intégrer et d'enseigner, d'apprendre le français. Mais évidemment, ça n'est pas du tout le même français
que je faisais. Dites-moi, il n'y a pas des anciennes collègues avec lesquelles vous pratiquez aussi une autre activité, sur la lecture en particulier ?
Alors oui, je continue mon engagement qui est celui que j'ai depuis 23 ou 24 ans. C'est-à-dire que j'étais présente lors de la création d'un petit concours à destination des collégiens qui s'appelle « Les dévoreurs de livres ». Et donc, nous avons avec Annie Falzini, qui était sa fondatrice, essayer de faire lire nos élèves. Et je continue de le faire à travers les accompagnements des auteurs, puisque ce concours-là donc demande aux élèves de lire 7 livres dans... Alors maintenant, c'est 6. 6 livres dans l'année, et donne la possibilité aux enseignants de recevoir un auteur et d'échanger avec les élèves, ce qui est formidable.
Merci à vous. Nous nous retrouverons plus tard. Maintenant, un sketch joué par Michel, Lucette et Michel. Un matin, M. Guillot promène en laisse son superbe collet sur les planches de Deauville. Un adolescent s'approche de l'animal.
Monsieur, monsieur, il est beau votre toutou. Je peux lui faire une caresse ?
Je te conseille d'être doux.
Vaillant n'est pas sauvage, mais sait-on jamais.
Monsieur, monsieur, votre klebs a pissé sur mes grôles.
Que voulez-vous dire, jeune homme?
Votre cabot a levé la patte et a arrosé mes godasses.
Vous voulez dire sans doute qu'il a uriné sur vos chaussures, mais dans leur état de crasse, son besoin pressant n'est guère fâcheux.
Eh, bouffon, tu rigoles? Sapé comme tu l'es? T'es riche comme Crésus? File-moi du blé pour que je puisse m'acheter une nouvelle grôle.
Petit scélérat, vos exigences sont carrément déraisonnables. Ne vous faites pas d'illusions, vous n'obtiendrez rien de moi, même pas un centime. Je prends mon téléphone et j'appelle illico le commissariat de police.
MDR, les keufs, même pas les foies.
Survient une femme.
Léo, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi te disputes-tu avec ce monsieur?
Oh, man, ne te mêle pas de ça. J'ai un blême avec ce Richard. Son connard de chien a pissé sur mes godasses.
Léo, tu ne parles pas comme cela. Tes baskets, nous allons les nettoyer. Tu verras, elles seront comme sorties de la boutique. Maintenant, excuse-toi auprès de ce monsieur.
Mais maman, il est pété de thunes, ce vieux schnock. Vise un peu ses fringues et ses grôles. Peut bien me filer un peu d'oseille, quand même.
Léo, tu présentes tes excuses tout de suite.
Je m'excuse.
Je te félicite pour ta docilité, mais sache, pour ta gouverne, que l'on ne s'excuse pas soi-même. Il eût été préférable de déclarer « Je vous prie de m'excuser ».
Sylvie, une petite réaction ?
Félicitations aux auteurs de ce sketch absolument ravissant et juste et qui montre la richesse et qu'on peut s'amuser aussi en faisant du français quand on fait des recherches pour essayer d'avoir un niveau de langage soutenu, soit au contraire à la limite de l'argot, en tout cas dans un langage de jeunes. Bravo, mesdames et messieurs, félicitations. 20 sur 20.
Alors maintenant, nous allons vous proposer une petite pause musicale.
A, B, C, D.
Une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, On dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux.
Nous avons écouté Yves Duteil, La langue de chez nous. À présent, c'est à Michel de nous parler de l'argot.
La cigale et la fourmi, vous connaissez ? Je vous la jacque comme apentruche. La cigale.
Quand l'hiver alléja,
la laissant sans artiche, que dalle pour se taper la cloche, ne voulant pas clamser la gueule ouverte, à la pomper à reste de tambouille chez la fourmi en lui disant « Quand l'été rappliquera, j'aboulerai l'artiche. » Réponse de la fourmi, constipée du morlingue, elle se fendit de balpeau. Elle lui dit « Quand tu dormais sur le rôti, moi je mouillais ma limace. Alors si t'as le bite qui gargouille, t'auras nib et casse-toi. Vous avez bien esgourdé ? Vous avez entravé ? Que dalle ? Ou vous avez les Portugais sans sablé ? Voilà, la minute en argot est terminée. Mais pourquoi ? C'est aussi une facette de notre langue française. L'argot parisien a deux sources principales. L'argot des métiers et l'argot dit des voleurs. Il reste vivace dans les rues de la capitale et des banlieues jusqu'aux années 1970. L'évolution sociologique de la population parisienne explique en grande partie cette mort de l'argot. On l'appelait aussi la langue verte, mais elle n'avait rien d'écologiste alors. L'argot n'a jamais fait partie des langues régionales. L'argot en littérature s'invita souvent dans l'après-guerre, avec Alphonse Boudard, Céline, Raymond Queneau, René Fallet, Frédéric Dard alias Saint-Antonio, qui publia 300 volumes vendus à 250 millions d'exemplaires, un record. L'argot était souvent utilisé au cinéma au cours des années 50, 60, 70, avec Audiard, Gabin, Blier, Chevalier, Arletty, tous natifs de la région parisienne, ils ont la gouaille du Titi de Paris. Aujourd'hui, peu ont cette intonation. Dans la chanson seule de Daniel Guichard, « Mon vieux, je t'aime, tu vois », le possède encore. À principe actif, 102.4, je suis le dernier dinosaure encore vivant à l'avoir encore un peu. J'ai aussi un point commun avec Monet, le peintre, lui aussi parisien, avoir habité Paris, Argenteuil et dans l'Eure. Puisque nous parlons de Monet, imaginez un dialogue, mais qui n'a jamais existé, entre Mistinguette, Mademoiselle Bellegambette et Monet, Monsieur la Barbouille, devant les Naféas à Giverny. En argot, bien sûr. Mais là, je vous paume, ma toquante grelotte 13 plombes, l'heure du frichti, alors à la tortore, et mes igmélébous à la revoyure.
Super. Ah Michel, cela me fait penser à un souvenir d'enfance. Dans ce Paris des années 60, je revois mon grand-père se préparer très tôt le matin pour aller travailler. Il me disait « Ma petite fille, chez les bouchers, j'ai appris à parler le louchébem. » Pour me dire bonjour, il me disait « Lou bourgem. » Pour dire merci, l'ersimuche. Et le café, c'était un lafec. Des mots qui me semblaient très curieux. Cet argot des bouchers est en fait un langage crypté que l'on parle entre soi et que les clients ne comprennent pas. Il reprend la construction de l'argot des brigands dans les prisons françaises au XIXe siècle. Il se développe au milieu des années 1850 dans les halles de Paris. Encore maintenant, des apprentis bouchers et des anciens du métier continuent à perpétuer cette tradition. Et maintenant, Marie-Claude va nous présenter une chronique sur les langues régionales.
Les langues régionales ou minoritaires de France sont un ensemble de langues géographiquement et historiquement implantées sur le territoire français, autres que la langue française. Les variétés régionales du français ainsi que les langues issues de l'immigration ne sont pas considérées comme des langues régionales. Elles sont parlées, parfois appelées dialectes ou patois, plutôt que langues, afin d'insister sur leur caractère local. Cependant, en linguistique, dialecte désigne une variété significativement distincte d'une langue donnée, tandis que le patois tend à être évité du fait de sa valeur souvent péjorative. En 1806 a lieu le recensement de la population française avec une enquête linguistique sur l'ensemble du pays et de l'Empire. Deux groupes de langues apparaissent alors, les langues d'Oïe, regroupant les zones géographiques du nord de la France, de la Bretagne à l'Alsace, et les langues d'Oc, regroupant les régions du sud de la France, de l'Occitanie à la Suisse. En métropole, l'occitan, parlé par près de 800 000 personnes, est la première langue régionale. Viennent ensuite l'alsacien, près de 550 000 locuteurs, le breton, près de 300 000, le corse, plus de 130 000, le catalan, 100 000 et le basque, 80 000 en France, mais 500 000 en Espagne. L'enseignement des langues régionales est vivement combattu dès la Révolution française comme un frein à la compréhension des lois et des règles dans tout le pays, mais sans succès. C'est à la fin du XIXe siècle, avec l'instruction primaire obligatoire et laïque de Jules Ferry, qu'elles vont disparaître peu à peu, mais pour renaître après la Deuxième Guerre mondiale. Reconnue comme patrimoine immatériel français dès 1951, puis 2008, elles sont enseignées à tous les niveaux scolaires. Des examens tels que le bac peuvent être passés en langue régionale. De plus, une charte européenne des langues régionales et minoritaires a vu le jour en 1999. Mais tous les articles n'ont pas été ratifiés par la France, car considérés par le Conseil constitutionnel comme inconstitutionnels au regard de notre Constitution et de notre article 2, qui stipule que seul le français représente la France. Néanmoins, en 2021, l'Éducation nationale a publié une circulaire conservant l'enseignement immersif des langues régionales dans tous les établissements publics. Un soulagement pour les Bretons et les Basques notamment. Le sujet n'est pas clos car chaque région souhaite garder son identité. Donc, le feuilleton aura une suite. Et maintenant, à notre invité.
Mais attends un petit peu, j'ai un petit clin d'œil à faire quand même, Marie-Claude. à ce propos de ces langues régionales, enfant, moi j'ai été bercée par des expressions employées par mes parents, qui avaient vécu quelque temps en Alsace. Et à mon tour, j'ai utilisé ce dialecte alsacien, qui est une forme orale de l'allemand parmi d'autres, le badois, le bavarois, le saxon, pour dire à mes enfants, « Hop, komm, allez, viens !» Ah, Guter, bon appétit. Veux-tu du salz pour du sel? Et c'est l'heure, allez, au schlof, pour leur dire d'aller se coucher. Eh bien, la transmission s'est faite naturellement lorsque mes filles, à leur tour, à ma grande joie, ont utilisé cette expression pour leurs enfants. Voilà, c'était le petit clin d'œil alsacien.
Sylvie, avez-vous des remarques à formuler à propos de ces langues régionales?
Alors, je ne sais pas si vous attendez des remarques académiques, je ne les ferai pas. Je pense qu'il est utile que tout le monde puisse parler et comprendre le français le mieux possible, mais c'est vraiment très intéressant d'avoir cette richesse dans notre pays et j'admire les parents qui ont le courage d'inscrire leurs enfants dans les écoles qui pratiquent à la fois le basque et le français. C'est déjà une langue vivante. Après, ils vont apprendre l'anglais, peut-être l'espagnol. Et plus on apprend de langues, plus on est prêt à communiquer dans le monde entier. Et aujourd'hui, je pense que c'est un atout. Donc oui, c'est vraiment cette richesse, elle est vraiment formidable. C'est la même qu'on retrouve dans le vocabulaire de tous les ordres. Et si vous vous souvenez, par exemple, d'avoir entendu, si ce n'est pratiqué et exécuté vous-même la dictée de Mérimée, il y avait un vocabulaire tellement spécifique dans cette dictée que tout le monde faisait des fautes d'orthographe et on ignorait pratiquement le sens des mots qui étaient techniques. Donc, oui à toute cette richesse, surtout aujourd'hui où on peut peut-être constater un petit appauvrissement du vocabulaire français.
Merci Sylvie pour votre intervention et tout de suite une petite pause musicale.
Sur nos téléphones on tapote et on papote avec nos potes. On met CC pour dire coucou et RDV pour rendez-vous. Mais tous les mots des dictionnaires, faut pas les foutre en l'air. Les livres de Victor Hugo, c'est quand même drôlement beau. Nous on écrit des SMS, nous c'est index à toute vitesse. Et quand on veut se dire je t'aime, c'est JTK ou JTM. Mais faut quand même faire un peu gaffe aux fautes d'orthographe. Ils sont pas moches non plus les verts, les messieurs Jacques Prévert. On s'envoie des tas de textos, des vidéos et des photos. SLT ça veut dire salut, le A le plus veut dire un plus. S'écrit par Saint-Exupéry. Nous on se parle en abrégé, et les smileys, c'est trop branché. Pour mort de rire, c'est MDR, pété de rire, pété DR. Oui, mais pour la conjugaison, apprenons nos leçons. Vive les Romains de Marcel Pagnol, et on lui dit tout seul.
Nous avons écouté les enfants fantastiques, la langue de Molière.
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N.
Et c'est au tour de Lucette de nous présenter un petit texte sur le sens propre et le sens figuré.
Antonin et Maëva rentrent de l'école. Ils n'arrêtent pas de bavarder et sont très énervés. Il faut dire que la journée de classe s'est terminée par une leçon de vocabulaire sur le sens propre et le sens figuré. Tout ça parce qu'en rentrant après la récré, Léon et Jules n'arrêtaient pas de se disputer. « Arrêtez de vous manger le nez !» a dit la maîtresse. Aussitôt, elle a ajouté « au sens figuré, bien sûr !» Car si c'était au sens propre, il faudrait, Léon, que tu mordes le nez de Jules. Pouah, a ajouté un élève, ben le propre, il n'est pas très propre. Eh bien, dit la maîtresse, c'est la leçon que l'on va faire aujourd'hui. Le sens propre et le sens figuré. Vous avez à peu près compris, vous avez 5 minutes pour chercher un exemple. Au bout du délai, Lola n'a toujours rien trouvé. Elle râle dans son coin. « Qu'est-ce que tu as, Lola ?»« Ben, j'ai beau me casser la tête, je ne trouve rien. »« Mais si, a dit la maîtresse, bravo !»« Tu te casses la tête parce que tu cherches. » C'est le sens figuré. « Sinon, il te faudrait prendre un marteau et te taper sur le crâne. » Alors, quand je dis à Léon qu'il me casse les pieds, c'est le figuré, dit-elle. Bien sûr, dit la maîtresse. Parce que sinon, eh oui, ajoute tout de suite la gamine, eh oui, il faudrait que je lui laisse tomber une grosse pierre sur le pied. Vous avez très bien compris. Mais on a traîné. Il est l'heure de rentrer maintenant. Allez, prenez vos jambes à votre cou et rentrez vite chez vous. Attention, au sens figuré, sinon vous risqueriez de tomber. Maëva repart, elle dit « Ah, oh, ça c'est drôle !» Elle a dit aussi « Casser la figure !» Et elle a dit au figuré, la figure au figuré, la figure au figuré. Elle est rejointe par Antonin. Alors, on cherche aussi, nous, on en trouve d'autres, des exemples? Bien sûr, dit aussitôt sa copine. Si tu es très dépensier, tu jettes l'argent par les fenêtres. Ah oui, dit Antonin. Et après, je suis fauchée comme les blés. Ben, c'est ça. Ou bien alors, tu tires le diable par la queue. Ah, j'y avais pas pensé. Mais, tu sais, pour faire ça, il faut avoir une araignée au plafond. Ah oui, oh, comme c'est drôle. Et puis, tu sais, il vaut mieux, si on a de l'argent, le dépenser en ayant le cœur sur la main. Eh bien, il en existe des mots au sens figuré. Dis-moi, maintenant, moi j'ai des fourmis dans les jambes, on rentre en courant. Et les voilà partis tous les deux. Ils courent, ils sont arrivés. Salut, a dit Antonin à Maëva, que ça ne t'empêche pas de dormir sur tes deux oreilles. Et si tu le prends au sens propre, tu me diras comment tu fais pour y arriver. Et les deux amis se sont séparés.
Merci Lucette pour ton intervention captivante. Et maintenant, c'est à toi Paul, tu as décidé de nous parler des expressions québécoises.
Le langage sert à communiquer sa pensée grâce à la parole, l'écriture et la gestuelle. Pour ma part, je suis toujours amusée de la façon dont s'expriment les Canadiens. Leurs expressions sont très différentes et plus amusantes aussi. J'ai retenu quelques subtilités de ce parler et suis tombée en amour en les écoutant. Voici une petite idée de ceci. Avoir de l'eau dans la cave signifie que notre pantalon est trop court. En France, on dirait avoir le feu au plancher. Passer la nuit sur la corde à linge, c'est avoir très mal dormi, même pas dormi du tout. Attache ta tuque. La tuque est très québécoise. En France, c'est un bonnet. Là-bas, cela veut dire attention ou sois prêt. Exemple. Je vais pousser cette luge en bas de la colline, attache ta tuque. Le week-end approche, je vais prendre mon char pour aller au bord de la mer. Je vous fais un gros bec et vous dis à bientôt.
Merci Paul, c'était vraiment très amusant. Et c'est l'heure du billet d'humeur de Michel.
Le 24 mai 2022, 85 000 réfugiés ukrainiens en France. Mais il ne fait pas toujours bon d'avoir raison trop tôt. Surtout si votre action va être contre-courant de la doctrine officielle. N'y voyez pas un rapport avec la situation actuelle des réfugiés, ou si vous en voyez un, cela nous ramène à un homme qui s'est toujours dressé pour soutenir les réfugiés, les exclus, les gens qui souffrent dans leur âme et dans leur chair. Cet homme s'appelle Jacques Gaillot, prêtre puis évêque. Auditeur, vous vous souvenez de lui à Évreux. Défenseur inlassable des causes humanitaires, il n'hésitait pas à mettre son action dans les médias de l'époque, où la télévision était plus regardée qu'aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes là en 1990. Mais en 1995, viré du diocèse d'Évreux par Jacques Pasqua, alors ministre de l'Intérieur et des Cultes, qui s'appuyait sur la bienveillance à l'époque du Vatican. Jacques, je sais qu'aujourd'hui vous êtes toujours attentif à la détresse des réfugiés. Je connais votre bonté pour avoir partagé avec vous plusieurs repas conviviaux où j'ai pu apprécier votre préoccupation de votre entourage. Vous avancez en âge, mais vos liens avec Évreux perdurent. Vous avez, quelques années, rencontré le pape François, et cela a été une reconnaissance de votre action. Vous relatez avec humour la préparation de cette entrevue par portable interposé avec la voix rocailleuse du pape. Mais j'ai pu constater que pour les imitations, il faut croire que nos hébroïciens connus ont des dons. Pour avoir entendu récemment Jean-Louis Debré raconter un échange entre Chirac et Giscard au Conseil constitutionnel, il s'aimait vraiment pas ces deux-là. Mais revenons au pape. Vous trouvez avec retard son message téléphonique, émis plusieurs jours avant de vous parler en direct. L'un et l'autre n'étaient jamais à côté de son portable lors des appels. Finalement, vous avez été reçu à Rome, vous avez rencontré votre semblable dans la pensée. Aujourd'hui, dans l'état d'esprit actuel, votre engagement serait reconnu et salué. Comme quoi, pour revenir à notre point de départ, vous avez eu raison trop tôt.
Tu es resté humé.
Et je passe à nouveau la parole à notre invité. Voulez-vous reparler de votre engagement actuel ?
Je veux bien parler de mon engagement actuel. Si vous parlez de mon engagement en tant qu'animatrice d'ateliers de français auprès des étrangers ?
Oui, c'est ça.
Au Resto du Cœur, nous faisons un certain nombre de choses pour aider les personnes et en particulier pour qu'ils puissent s'intégrer. Donc les étrangers doivent apprendre le français. Et donc après avoir donné à manger et s'être dit que ça ne suffisait pas, un certain nombre de bénévoles et moi-même avons créé cet atelier de français.
Est-ce que cet atelier s'adresse d'abord pour leur apprendre l'oralité et est-ce que vous finissez par passer à la lecture parce que les papiers administratifs doivent leur poser beaucoup de soucis ?
Oui, quand on ne parle pas un mot d'une langue, il faut d'abord être capable de se débrouiller dans la vie quotidienne et donc effectivement c'est d'abord parler à l'oral. Pour la plupart d'entre eux, nous faisons des ateliers avec un peu de personnes et donc assez rapidement nous pouvons voir si ils sont capables ou pas de lire les quelques mots utiles que nous leur proposons et qui pourraient donc les aider dans leur vie pratique, remplir un papier avec nom, prénom, l'adresse par exemple. Chaque langue prononce de façon différente les mots, donc c'est compliqué pour eux de trouver leur chemin, par exemple. Donc nous leur faisons éventuellement visiter les points stratégiques que sont la préfecture, la mairie, les centres sociaux qui peuvent les aider, mais on leur apprend le français à cette occasion-là. Donc tout est toujours pratique et c'est ce qui m'a plu dans cet atelier pour changer complètement. Je n'ai plus du tout envie d'enseigner. J'ai aimé ce métier avec passion, mais finalement je me rends compte que ce que j'aime surtout c'est le français et donc c'est quelque chose que je connais bien et que je peux aider les gens dans cette voie-là. Vous avez des questions?
Oui, l'alphabet ukrainien n'a rien à voir avec notre alphabet.
Non, en fait,
c'est quoi? C'est le cyrillique, non?
En gros, on va dire que aucune des personnes à qui nous faisons un atelier de français, avec qui nous faisons un atelier de français, n'a le même alphabet. Les Africains, ont plutôt un alphabet arabe. Ils parlent l'arabe quand même pour beaucoup d'entre eux. Nous avons aussi, par exemple, des Cambodgiens qui, eux, viennent pour étudier une profession de façon un peu plus précise que dans leur pays. Donc, c'est une coopération. Donc, eux, alors, c'est vraiment aussi complètement différent. C'est presque chinois ou japonais, je ne fais pas trop la différence. L'ukrainien n'est pas la même chose que le géorgien, n'est pas la même chose que le russe. C'est excessivement difficile pour eux, d'autant plus que toute la richesse de la langue française que nous aimons, ils ne peuvent pas y avoir accès et c'est compliqué pour eux. Les mots ont toujours plusieurs sens et
ils ne perçoivent pas.
Ils ne le perçoivent pas et nous, il faut qu'on essaie de trouver le mot précis qui ne va pas les induire en erreur. Donc on est à l'écoute. Et la première difficulté, c'est que le français est simple. Donc j'ai simplifié toute la grammaire française. Là, mes anciens élèves seraient étonnés.
Nous aussi de
cette simplification parce que évidemment il n'y a que des exceptions en français. C'est insupportable. Pour les gens qui sont effectivement francophones et qui parlent le français depuis qu'ils ont 2 ans. On n'a pas de souci, mais là, c'est horrible. Donc, c'est un français simple, mais qui leur permet quand même de donner aussi leurs sentiments. Il faut qu'ils puissent dire s'ils sont bien ou pas, s'ils sont en colère. Et parce que ça, c'est important de pouvoir communiquer aussi avec nous.
Et vous avez modifié votre technique ou vous avez inventé des techniques?
Oui. Mais finalement, un peu comme lorsque nous faisions des cours, je pense que Michel, ici présente, se souvient certainement d'avoir préparé des cours pratiquement tout au long de sa vie. On s'adapte à notre public. Nous n'avons jamais le manuel parfait. C'est nous qui le constituons. Donc là, c'est la même chose. Et nous rebondissons sans arrêt sur leurs difficultés ou leurs questions du jour. Lorsque je me suis aperçue qu'ils ne connaissaient pas leur adresse, qui était complètement étrangère pour eux, je n'avais peut-être pas tout de suite envie de leur expliquer ce qu'était une rue ou une avenue, mais c'est devenu évident. Donc oui, on rebondit à chaque fois et ils apprennent relativement vite.
J'ai vu sur le Facebook pro de l'AVF, l'accueil des villes françaises, que vous participez aussi à l'accueil de gens étrangers depuis quelques années dans cette association.
Oui, alors à l'AVF, donc Accueil des Villes de France, nous avons une activité qui s'appelle FLE, donc Français Langue Étrangère. Donc les gens qui s'inscrivent à l'AVF peuvent faire plein d'activités et donc moi j'anime celle-ci qui est vraiment beaucoup moins difficile que celle que je fais au Resto du Cœur, parce que c'est quand même très difficile. Nous accueillons donc, vous le savez sans doute, c'est Coluche qui le disait, tout le monde, sans différence de rien du tout, même quelqu'un de riche peut venir et nous lui tendons la main. Mais effectivement, ce sont souvent des gens en précarité, des gens qui essaient de fuir leur pays pour multiples raisons. Ils sont en demande de papiers pour certains au niveau des Restos du Cœur, et c'est très difficile de se dire que non, ils ne pourront pas avoir leurs papiers. Nous, je commence à savoir à peu près ceux qui ne les auront pas, et c'est horrible. On ne peut pas non plus accueillir tout le monde, mais quand on connaît les gens. Évidemment, on noue des relations amicales avec eux, et c'est très difficile. Alors par contre, à l'AVF, ce sont des gens qui sont insérés, qui s'installent à Évreux et qui n'ont pas ce souci-là. Alors là, c'est vraiment passionnant et il y a toute une recherche à faire selon les langues. Souvent, d'ailleurs, c'est une question de prononciation. À l'AVF, nous faudrait une orthophoniste. Je lance un appel. Si, sur principe actif, il y a des gens qui écoutent et qui sont prêts à donner une heure de temps en temps, ou même une demi-heure, la prononciation pour les gens qui sont d'origine asiatique, c'est très compliqué. Pour les Russes, c'est très compliqué. Pour les Danois, nous avons eu un Danois aussi. En fait, il n'y a pratiquement que le français qui ne roule pas les R, qui prononce le U. Toutes les autres langues le prononcent U. Enfin, toutes ces particularités-là sont quelquefois difficiles pour les étrangers. Et donc là, nous avons effectivement 6 Ukrainiennes qui sont là des dames qui ont une profession, qui repartiront chez elles très vite, qui voilà, sont hébergées, qui essaient d'apprendre un petit peu le français. Voilà, mais peut-être comme si elles étaient un petit peu en vacances, hein, elles sont vraiment encore vraiment tournées vers l'Ukraine.
Nous savons que les enfants apprennent vite, comment ça se passe pour eux ?
Alors nous, au Resto du Cœur, nous n'avons pas d'atelier pour les enfants à Évreux. Et ça existe hein, dans d'autres départements, mais nous non. Oui, les enfants apprennent tout de suite. Vous avez des petits-enfants, vous vous souvenez sans doute de vos enfants. Moi, je me souviens de mes débuts assez récents dans l'informatique et je n'y arrivais pas. Ma fille avait 9 ans, n'avait jamais appris. Personne ne savait qu'elle se débrouillait et c'est elle qui m'a aidée. Donc oui, les enfants ont une faculté à se débrouiller, bon, particulièrement en informatique, je le sais, mais aussi dans les langues. Aujourd'hui, je crois que les langues vivantes sont enseignées très tôt pour cette raison-là. Ils sont capables d'emmagasiner plein de mots. Je dois vous dire que passer un certain âge, c'est nettement plus difficile. Nous le voyons bien avec nos accueillis et qui viennent apprendre le français.
Une autre question. Aujourd'hui, choisiriez-vous la même carrière professionnelle ?
Alors, à 100%. Écoutez, oui, bien sûr. Oui, ça a toujours été une passion. Peut-être que je jouais, Sylvie racontait son enfance, je pense que je jouais à la maîtresse dès que j'ai pu jouer à la maîtresse. Je suis désolée de vous le dire. Et j'ai terminé mon enseignement en aimant toujours ce métier et en me disant qu'il avait complètement changé, mais qu'il s'adaptait vraiment bien aux conditions de notre société. Alors évidemment que nous ne pouvons plus au collège faire étudier des classiques. Peut-être vous souvenez-vous d'avoir lu La Princesse de Clèves, peut-être vous souvenez-vous d'avoir lu Balzac. C'est impossible aujourd'hui, mais si nous relisons ces livres-là, c'est vrai, il y a un décalage quand même dans la façon d'écrire. C'est comme ça, c'est l'évolution. Vraiment, je pense qu'on fait de très très belles choses aujourd'hui encore. Et si vous aimez lire, vous le savez, la littérature contemporaine est extraordinaire. Et peut-être que notre amie Céline, dont on vient de retrouver un manuscrit, en est la preuve. Si c'est l'écrivain, le futur Proust, peut-être, du XXe siècle, je ne sais pas, qui sera le futur Proust. Du 21e, d'ailleurs, je dis 20e, mais c'est 21e.
Eh bien, merci beaucoup, Sylvie. Et voici à présent la chronique de Michel, le français langue vivante.
Oui, contrairement au latin et au grec ancien qui ne sont plus parlés et sont devenus des langues mortes, le français est une langue vivante. Le 9 mai ont été révélés les mots nouveaux qui sont entrés dans nos deux dictionnaires populaires, le Petit Larousse et le Petit Robert. Alors, vous ne serez pas surpris si je vous dis que un certain nombre de mots sont en rapport avec le Covid. comme pandémie, vaccinodrome, distanciel, passe sanitaire, passe vaccinal, rassuriste, je pense qu'on ne l'utilisait pas trop. Et est apparu aussi un autre mot, le wokisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le wokisme? Ça vient du mot woke, qui veut dire éveillé, et qui vient des mouvements pour l'émancipation des personnes noires aux États-Unis. À l'origine, c'était un slogan pour évoquer les conditions de vie des Noirs aux États-Unis. Alors, je ne vais pas vous parler en anglais parce que... Non. Moi, je parle que français. Je ne parle que français. Alors, c'est un mot qui... Wokisme désigne toute forme de lutte pour la justice sociale, pour l'antiracisme et pour le féminisme. Alors, c'est vrai que ça a été employé par les détracteurs comme une insulte. Alors, je connais un certain ministre qui l'utilisait beaucoup. Je vous tairai son nom, c'est un ancien. Mais pour faire de la place à ces mots nouveaux dans les dictionnaires, ben, il faut virer, évidemment, des anciens mots. Des mots qui sont considérés comme vieux, vieillis, littéraires, et qu'on ne trouve plus que dans les encyclopédies. Alors, on va s'amuser, là. Je vais vous en proposer quelques-uns, et on va voir si vous êtes capable de deviner ce que ça voulait dire. Alors, un clampin a complètement disparu. Est-ce que quelqu'un saurait ce que c'était qu'un clampin ?
Quelqu'un.
Quelqu'un d'un coup.
Ah ouais, ça peut vouloir dire un type quelconque, oui, effectivement, quelconque. Sans originalité. Mais ça a d'autres sens aussi.
Moi, je disais un boiteux.
Pas vraiment un boiteux. C'est quelqu'un qui traîne. Un traînard. Alors bon, c'est vrai qu'un boiteux, il peut traîner. Hein. il peut traîner la patte.
Voilà.
Ça désigne aussi un paresseux. Ça peut être un paresseux, un clampin. Alors, plus facile. C'est un mot qui est toujours au féminin pluriel. Les génitoires.
Les génitoires.
Les génitoires.
J'ai bien une idée.
Alors, je peux vous mettre sur la piste.
Une maternité.
Non.
C'est les bijoux de famille.
Eh ben, au sens figuré, oui.
Ah ben voilà, moi,
voilà.
Sens propre, sens figuré.
Quelle était ta vraie définition, Michel?
La définition, c'était une définition amusante. Elles vont toujours par deux au bas du ventre des hommes.
Jolie périphrase, bravo.
J'aurais cru que c'était de l'argot.
Et pécamineux. Alors, ça vient peut-être du latin, ça.
Péca en latin, c'est la faute. Mais après,
donc celui qui est pécamineux, c'est celui qui commet des
péchés.
Des péchés.
Ah oui, voilà. Péca, c'est
voilà. Voilà. Bravo.
Bravo. Comme quoi le latin sert à quelque chose.
Alors deux mots ont sans doute échappé à la disparition, car ils ont été sauvés par notre président.
Les carabistouilles.
Et puis
Saperlipopette.
Un vieux juron qui exprime l'étonnement ou l'agacement. Et quant à carabistouille, ça veut dire des bêtises, en fait. Voilà, je repasse la parole à Sylvie, notre animatrice, pour la bonne nouvelle du mois.
W-I-C-Y-Z.
Voulez-vous savoir comment se porte le français dans le monde? Très bien. Car selon l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, le français est la cinquième langue la plus parlée sur la planète. Elle est la deuxième langue la plus apprise dans l'Union européenne, loin derrière quand même de l'anglais. Et en Amérique latine, elle est la deuxième langue la plus enseignée. Sur Internet, résolument international, elle est la troisième après l'anglais et l'allemand. L'OIF estime même que notre langue pourrait être la plus parlée dans le monde d'ici 2050, grâce à la démographie croissante de l'Afrique, où se trouvent 59% des locuteurs quotidiens. Et à présent, nous revenons vers Marie-Claude qui nous a préparé un historique de la langue française. Mais tout de suite avant, nous écoutons Lucette.
Oui, nous vous avons parlé du langage depuis le début de cette émission et Marie-Claude va vous parler de son évolution. Mais moi, la première question que je me pose, c'est pourquoi l'homme s'est mis à parler? Alors j'ai cherché, il y a des noms un peu compliqués, mais je vais vous les dire au cas où vous ne me croiriez pas. Selon John Maynard et Stade-Marie, le langage apparaît comme la plus récente des transitions majeures dans l'évolution de la vie, permettant des niveaux différents de sociabilité. Le langage humain serait apparu il y a entre 350 000 et 150 000 ans chez Homo sapiens. Cette datation est estimée par la vitesse d'accumulation de certains phénomènes. L'étude des os, la musculature crâno-faciale et des phénomènes culturels comme les sépultures qui donnent des informations sur le moment de son apparition. Le langage serait le propre de rire, pardon, le langage serait le propre de l'homme, mais rire aussi. Donc, le langage est indispensable au développement caractéristique de l'homme pour le distinguer des animaux. La parole et la vocalisation auraient évolué à partir de la gestuelle chez l'être humain. Le langage le plus ancien était, bien entendu, strictement oral. La lecture et l'écriture ne sont arrivées que bien plus tard. C'est l'Homo habilis, excusez-moi pour tous ces mots, il y a plus de 2 millions d'années qui pourrait être le plus ancien préhumain à avoir un langage articulé. Et ce langage n'est pas totalement inné. Il doit être en grande partie appris. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est d'observer les autres. Regardez le manque qu'il y a chez les enfants qu'on a trouvés et qu'on appelle quelquefois enfants sauvages. Si les enfants n'entendent pas parler le langage humain, ils ne vont pas reproduire, ils vont se contenter de sons. Le langage serait un mécanisme d'évolution, une évolution biologique et un besoin de transmission culturelle et d'apprentissage individuel. On s'appuyait sur des indices donc anatomiques et on a remarqué que la baisse de la position du larynx quand l'Homo habilis s'est mis à la verticale a entraîné aussitôt une articulation des mots. Donc, le langage des signes aurait été abandonné pour l'utilisation de la voix. Un autre argument serait que l'usage de la voix permettait de libérer la main pour la fabrication et le maniement des outils. Tout ce que je vous dis, ce sont quand même des hypothèses. Elles peuvent être remises en cause. Donc, il y avait aussi une autre théorie qui était la théorie du bébé à terre. Les interactions vocales entre les premières mères hominidées et leurs nourrissons auraient déclenché une séquence d'événements qui aurait mené éventuellement aux premiers mots de nos ancêtres. Les premières mères humaines, contrairement à leurs ancêtres, avaient vu partir leurs poils sur le dos et les enfants n'avaient plus rien pour s'accrocher au dos de la mère. Donc, lorsque la mère voulait se servir de ses mains, elle posait l'enfant au sol. Les bébés se mettaient à pleurer et avaient besoin d'être rassurés. Les mères auraient répondu aux pleurs de leur bébé en développant un système communicatif dirigé par leur nourrisson, englobant des expressions faciales.
Un langage corporel se serait mis en place avec le toucher, les caresses, les rires, les chatouilles et des sons qui petit à petit sont devenus des langages. Maintenant, à vous de déterminer si ce sont de vraies hypothèses ou des hypothèses un petit peu uluberlu.
Merci Lucette. On va essayer de mettre le turbo pour l'histoire de la langue et je vais même m'appuyer éventuellement sur notre invité qui va pouvoir me corriger si tout va mal. Si je dis pas les choses, j'ai pas les choses bien. Était une fois nos ancêtres les Gaulois, Vercingétorix, Clovis. Quelle langue parlait-il ? À l'époque, il y avait une foultitude de langues ou de dialectes venant du gaulois, du celtique, du germanique. Donc, difficile de se comprendre entre le nord, le sud, l'est, l'ouest de tous ces territoires. L'invasion romaine arrive jusqu'au 5e siècle de notre ère et nous amène non seulement l'administration, les routes, les règles, les lois, mais un début de langue unique qui s'appelle le latin, au moins pour l'écriture. Les langues dites barbares vont disparaître petit à petit. 7e siècle, le paysage linguistique se résume à trois variétés de langues. Les langues germaniques, parlées par les érudits et les rois, le latin, qui n'est souvent qu'une langue écrite, et le romain, qui deviendra le français, l'occitan, le catalan, etc. Mais parlé par le peuple. Le premier texte considéré comme fondateur de la langue française est signé en 842. Il s'agit des serments de Strasbourg, écrits en germanique et en roman, et non pas en latin. On fait des grands bonds. Jusqu'au XIIIe siècle, la langue romane, donc, qui vient du romain, évolue librement, sans contrainte, dans chaque ville, campagne ou région. On a alors l'ancien français, avec des divergences, bien sûr, phonétiques, mais aucune norme. Le latin existe toujours et est repris par l'Église, qui, par les lettrés, les seigneurs, et c'est la langue des rois. En 1539, François Ier décrète que le français sera langue d'État pour tous les actes officiels et notariés par l'ordonnance de Villers-Cotterêts. À partir de 1600, le français devient la langue la plus parlée. Henri IV, Louis XIII et Louis XIV vont en œuvrer dans ce sens. 1635, le cardinal Richelieu crée l'Académie française composée de 40 hommes de lettres. Ils ont pour mission de normaliser et perfectionner la langue française. Le premier dictionnaire de l'Académie voit le jour en 1694. Jusqu'à la Révolution française, le français est utilisé dans tous les cours d'Europe et les gouvernements, mais le bas-peuple n'est pas invité à la fête. Le patois local ou régional reste la langue des campagnes. À cette époque, la langue devient une affaire d'État, car il fallait doter la République unie et indivisible d'une langue nationale et élever le niveau des masses. Ça ne va pas marcher, bien sûr. Avec l'adoption de la loi Ferry, qui institua l'école obligatoire, le français s'imposa finalement sur tout le territoire et les différents patois disparaissent peu à peu. Tout au cours du XXe siècle et jusque dans les années 60, les gouvernements français ont adopté pas moins de 40 lois concernant l'enseignement, la presse, l'administration et l'orthographe en métropole et dans les colonies d'Afrique. En même temps, l'anglais demeure pour le français un vieux compagnon de route. Il y a des échanges perpétuels entre les deux langues. Le Canada, lui, garde le français originel avec les variantes et les évolutions des mixages de l'anglais. Le français contemporain est le résultat d'une évolution toute constante. Notre belle langue n'est plus seule au monde, mais elle fait toujours rêver les étrangers. Ils veulent apprendre le français car il est difficile, mais parce qu'elle est considérée comme la langue de l'amour. L'unité du pays est actée par la langue, mais permet de l'enrichir et de la rendre encore plus vivante. Une dernière actualité qui s'invite toujours dans notre émission, pour imposer sa main sur l'Ukraine, la Russie a remplacé tous les panneaux de signalisation et les frontons des bâtiments de Mariupol de langue ukraine en langue russe. L'histoire ne s'arrête jamais.
Voulez-vous rajouter un petit mot, Sylvie, avant de conclure ?
Oh non, non, je félicite tous les participants, c'est très intéressant et peut-être on pourrait s'amuser encore avec plein de choses. Le français, c'est vraiment ça, à la fois la culture et puis le plaisir de vous entendre. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette émission. Au revoir.
Merci. Eh bien, notre émission se termine. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci à toute l'équipe, ainsi que Jean-Jean et Vincent à la technique. Nous remercions notre invité pour sa participation active et son bel engagement. En conclusion, que notre belle langue française, la langue de Molière, poursuive son évolution, que son apprentissage soit ouvert à tous et que la transmission perdure. Le principal n'est-il pas de communiquer ? À ce propos, la fête de la fraternité se tiendra ce samedi 28 mai sur la place de la mairie à Évreux pour de beaux moments de partage. Et nous nous retrouverons le 30 juin pour une nouvelle émission. À très vite !